L'erreur est urbaine sur 48FM, il est 10h et c'est l'émission qui vous parle d'urbanisme, de la ville dans toutes ses formes et d'architecture. Alors, on est encore en période de coronavirus, on a eu quelques annonces intéressantes hier avec Sophie Wilmès, mais nous on va parler surtout de quelques actualités qui sont un peu plus anciennes. On reviendra sur les annonces de Sophie Wilmès et de leur lien avec l'urbanisme dans la troisième partie de l'émission. Vous l'avez peut-être remarqué, pour le coup, on est passé, nous aussi, à un autre rythme, celui du confinement qui fait que, ben, vu qu'on est pas mal au chômage, on se fait chier peut-être aussi un petit peu. Donc on a décidé avec l'équipe de l'erreur urbaine de multiplier notre fréquence. Cette fois-ci, ce sera plus une mensuelle, on passe à une hebdomadaire, on est chaud. Je sais pas si on arrivera à tenir le rythme jusqu'au bout. Mais en tout cas, on est lancé. En tout cas, je suis lancé aujourd'hui puisque je suis seul dans ma chambre. On écoutera en deuxième partie d'émission une petite interview qu'on a organisée avec Lucas et Sybille qui ont créé la plateforme Les Oubliés. On en reparle tout à l'heure. Mais en tout cas, ça lance bien le thème de cette semaine. C'est les oubliés, ceux dont on ne parle pas justement dans l'actualité, ceux qui sont mis de côté, ceux pour qui c'est beaucoup plus difficile en cette période de confinement, bah justement de se confiner. Donc on a envie d'en parler et j'aimerais vous parler notamment d'une actualité qui a eu tout près d'ici, tout près des studios de 48FM, tout près de Liège, c'est notre commune voisine de Saint-Nicolas. Je me lance, je vais vous parler de Saint-Nicolas et des réfugiés. Apparemment, ça fait pas bon ménage en ce moment. Je reprends notamment un article qui a été publié dans DHNet. Alors, je vous laisse un peu vous habituer. C'est un style de rédaction qui est assez intéressant en tout cas. Cette semaine, donc, je reviens pour vous sur un chouette épisode qui a bien fait parler de lui à Saint-Nicolas. Et donc, pour vous, je me suis plongé dans les abysses de DHNet. Quel plaisir en tout cas de les lire. Dans un article sobrement nommé, c'est tout ce qui est sobre dans cet article, c'est le titre, je crois, ou presque, des réfugiés à l'ancienne clinique de l'Espérance. Tintin. On y revient sur les événements de mars et avril à la clinique de l'Espérance. Donc, la fin mars, donc le site de la clinique de l'Espérance à Saint-Nicolas s'est vidé de ses occupations et de ses occupants. Le tout transféré donc vers le nouvel hôpital du Mont Légia. Les bâtiments rachetés par un promoteur privé seront donc transformés, comme nous dit l'article, a priori à un ensemble comprenant logements, commerce et intégrant une place publique. Espérons que ce soit une meilleure place publique que celle qu'on a pour la médiacité. Je cite, bref, un chouette projet qui pourrait redorer l'image du quartier, nous dit DHNet. Et là, quelle désillusion. Donc là, je cite, quelle désillusion, nous dit DHNet, parce que suite à l'annonce faite le 1er avril par la Croix-Rouge de Belgique de l'implantation d'un centre demandeur d'asile pour accueillir 200 puis à terme 400 personnes dès le mois de mai, une ouverture donc à 400 personnes à partir de juin, voire de juillet. Donc Valérie Mas, la chère bourgmestre de Saint-Nicolas, appelée également surnommée la Dame de Fer dans certains articles que j'ai pu voir, notamment dans la Meuse. Ah, c'est tout un programme. Donc la bourgmestre de Saint-Nicolas déplore une communication tardive, qui peut tout à fait se comprendre, effectivement, a priori, elle n'a eu les informations quasiment que par la presse, mais elle poursuit. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Ce qui est d'autant plus déplorable au vu de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. C'est vrai que du coup, les réfugiés et tout ça, c'est pas compris dans cette crise. Eux ne sont pas la priorité, sous-entendu. Nous devons déjà nous adapter avec un quotidien qui n'est pas facile à gérer, nous dit la bourgmestre. Donc en plus, si on doit accueillir... Si on doit accueillir encore plus d'étrangers et de migrants, ça va être compliqué, si je dois bien comprendre. Donc, bon, on laisse parler en tout cas notre chère Valérie, mais également on laisse parler l'autrice de l'article. Je vous laisserai le retrouver, c'est magnifique, j'adore ce type de journalisme en tout cas. L'autrice de l'article, déterminée telle une dernière salve alcoolisée au fond du café à 4h du matin, quelques spéciales dans la gueule. Donc je cite, et puis, sans stigmatiser qui que ce soit. J'adore cette introduction. Non, bah, moi aussi, je connais quelqu'un qui est noir, qui est arabe. Ça donne un peu le ton. A-t-on réfléchi aux origines des personnes susceptibles d'arriver dans un tel quartier à forte population d'origine turque? C'est vrai que les Turcs ne sont vraiment réputés pour ne pas tolérer d'autres origines que la leur, je pense, hein. Ça doit être quelque chose comme ça. Ouf. Pour terminer, la bourgmestre nous rassure, il n'y a pas de rejet de la commune vis-à-vis de ces personnes, mais bien une réaction de rejet par rapport à la façon de mettre au pied du mur sans information préalable. C'est vrai que dans une situation telle que celle que nous vivons actuellement, nous ne sommes pas au pied du mur. C'est vrai que les réfugiés arrivant dans un pays si accueillant comme la Belgique ne sont pas non plus au pied du mur. Bref, je n'insiste pas, je souligne juste que le 6 avril, Valérie Mas, donc la bourgmestre de Saint-Nicolas, précise que le collège communal s'oppose donc à l'ouverture du centre et que celle-ci fait appel à un avocat pour défendre sa position. Elle met notamment donc en avant à la fois le manque de concertation fédérale qui porte atteinte à l'autonomie communale et aussi l'inadéquation quant à l'environnement immédiat et les coûts majeurs que cette installation relèverait pour la commune. Donc, en réponse, la résistance ne se fait pas attendre, vous attendez bien. Donc, une carte blanche qui a été publiée le 9 avril sur le site de la RTBF, co-signée par trois associations liégeoise défendant les migrants et les sans-papiers, Migration Libre, Sisolré ASBL et F41 ASBL. Dans cette lettre notamment, on souligne que la commune, ayant obtenu le label commune hospitalière dont on a pu parler dans une émission précédente, doit tenir certains engagements, et notamment celui d'accueillir au mieux les personnes migrantes, sans-papiers, en procédure ou réfugiées. Ce qui n'a pas forcément l'air d'être le cas pour la commune de Saint-Nicolas actuellement. Quant aux coûts majeurs énoncés par la ville, les signataires soulignent qu'une partie des charges sont subventionnées par Fedasil. Et sans le répéter maintes fois, mais la preuve est faite, ce sont des soutiens à l'économie et au commerce local, le fait d'amener une nouvelle population qui n'a généralement pas de trans n'a pas de véhicule personnel pour se déplacer, va souvent alimenter l'économie locale. Enfin, on parlerait du fait que l'environnement actuel est trop dense, que ce soit un lieu urbain, comme l'expose la commune. Donc, selon la commune de Saint-Nicolas, il faudrait continuer la même stratégie qui est faite par Fedasil, c'est-à-dire de laisser des migrants dans des espaces ruraux qui sont totalement isolés, qui renforcent leurs difficultés pour leurs procédures et qui les obligent à prendre des transports publics qui se font rares, d'autant plus dans une situation comme celle que nous vivons actuellement. Bref, un argument qui ne tient pas trop, en tout cas pour les signataires. Le projet, en tout cas pour le moment, est en stand-by. En attendant, les voix des sans-papiers s'élèvent discrètement, presque silencieusement dans cette période. C'est notamment ce qui a eu lieu ce lundi 20 avril à 11h, à Bruxelles du coup, devant le bâtiment de la commune. C'est notamment ce qui a eu lieu ce lundi 20 avril à 11h, devant le cabinet de la ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Asile et la Migration, notre chère Maggie de Bloch. L'idée était notamment de réclamer une régularisation en raison de leurs difficultés augmentées en cette période de crise sanitaire, comme ce qui s'est fait notamment au Portugal dès le mois de mars. Et souligne notamment un article paru dans Le Soir. C'est également une autre difficulté qui apparaît pour les sans-papiers, en plus d'avoir une difficulté. Puisque n'ayant généralement pas de logement officiel, il y a également la difficulté de ne plus pouvoir travailler, généralement du travail au noir qui n'est pas déclaré forcément. Et là, la difficulté augmente d'autant plus. Aucune couverture sociale, aucune indemnisation au chômage. Leur situation est préoccupante. En attendant que Maggie DeBlock fasse son travail, les policiers, eux, font quand même bien leur boulot. Ils ont identifié 6 personnes qui recevront un procès-verbal pour non-respect des mesures imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles, XL Yves Van de Kerr. Donc, ils étaient entre 50 et 60 selon les organisateurs. 6 ont été identifiés malgré leur port du masque, malgré leurs gants, malgré leur protection et leur distanciation sociale qui a été respectée selon les organisateurs. 6 PV vont être en tout cas distribués. J'espère en tout cas qu'ils ne les payeront pas. De toute manière, ils n'auront pas de quoi payer a priori vu qu'ils n'ont aucun revenu actuellement. On parle justement de ces oubliés, en tout cas dans la seconde partie de l'émission, avec nos invités Lucas et Sybille, qui ont justement lancé une plateforme dès le mois de mars qui s'appelle Les Oubliés, ceux dont on ne parle pas, les réfugiés, mais également les prisonniers, les travailleuses, travailleurs du sexe et d'autres situations qui deviennent d'autant plus précaires qu'ils le sont déjà, mais qui sont d'autant plus précaires actuellement. On en reparle dans la deuxième partie d'émission. C'est un petit peu lourd cette transition. Du coup, j'ai envie de vous détendre un petit peu quand même. On va passer un petit boom-bap des années 1990. Shorty No Mas, You Like My Style. C'est Da Beat Miners. C'est un groupe de producteurs originaires de Brooklyn qui est super connu dans le milieu underground du hip-hop du côté de New York. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. À tout de suite. Check it out, y'all. Check it out.
Keep it on for like miles, don't front, cause I know you dug my style.
retour dans l'erreur est urbaine sur 48 FM. C'était Shorty No Mas, You Like My Style, que vous avez écouté juste à l'instant. Un bon petit boom bap de 95 venant de Brooklyn. On reste un peu dans la street, mais du côté de Liège, puisque là, dans notre deuxième partie, on a nos invités. Alors, c'était des invités qui étaient déjà invités, mais qu'on a réinvités parce qu'on a eu un problème technique il y a quelques semaines. Et ils sont tellement sympas, ou peut-être qu'ils sont tellement confinés qu'ils ont pris le temps de revenir dans l'émission pour refaire une interview. Merci en tout cas d'être là. C'est Lucas et Sybille qui sont à nos côtés et qui vont nous présenter la plateforme Les Oubliés qu'ils ont lancé du coup quasiment dès le début du confinement. Et donc, je vais faire un petit résumé, mais l'idée, c'est vraiment de vous laisser la parole. C'est donc une plateforme qui parle en particulier donc de tous ces oubliés pendant ce confinement, donc les plus précaires, les plus démunis et ceux qui, justement, ont le plus de difficultés ou presque l'impossibilité de se confiner durant cette période. Donc, avant de peut-être lancer une définition pour vous de ce que c'est ces oubliés. Je précise déjà que c'est écrit de manière inclusive, donc on parle à la fois des hommes et des femmes. Je voulais un peu en tout cas les auditeurs en sachent un petit peu plus sur vous deux, Sybille et Lucas. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, peut-être vos spécialités et qu'est-ce que justement vous apportez sur cette plateforme des oubliés?
Sybille, je t'en prie.
Bonjour à tous, déjà. En fait, Lucas et moi, nous sommes rencontrés sur différentes thématiques. La thématique des prisons, il travaillait là-dessus pour le journal Dérivation d'Urbagora. Et de mon côté, j'étais une des chevilles ouvrières de la citation pour mettre fin à la surpopulation carcérale dans les prisons, donc en ma qualité d'avocate. Et puis, on s'est rencontrés par ailleurs dans le travail effectué au sein de la Ligue des droits humains, où on a pu travailler sur les thématiques, notamment des sans-abri. Et au début du confinement, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément facile de venir en aide aux personnes qui étaient les plus fragilisées. Et on s'est demandé un peu qu'est-ce qui restait encore à faire et qui était à portée de notre capacité. Et on s'est rendu compte que c'était important d'archiver et de veiller, de faire un monitoring sur les situations de grande vulnérabilité qui semblaient être oubliées des gouvernants.
C'est très bien dit.
C'est très bien dit.
Non, c'est vraiment bien dit. Tu m'as d'ailleurs même présenté. Donc, moi, je travaille à Rubagora, donc on m'entend parfois dans cette émission-ci. Et effectivement, j'avais rencontré Sybille parce que je m'étais intéressé à la question, notamment sous un angle spatial, des prisons et des lieux d'enfermement. Donc j'avais rencontré Sybille à cette occasion. Puis effectivement, après, on a travaillé ensemble et continué à travailler ensemble à la Ligue des droits humains, à la section locale de Liège. Et de manière générale, je m'intéressais aussi un peu plus aux inégalités aux inégalités sociales et spatiales, aux questions d'espace public, etc. Ce qui m'amène aussi à souvent être confronté à la question du sans-abrisme, que ce soit dans mon travail à Urbagora ou à la Ligue des droits humains. Et voilà, donc la genèse du projet a été assez bien expliquée. Moi, simplement, je me suis demandé à un moment ce que je pouvais faire. Sybille m'a un peu parlé de toutes les situations problématiques personnellement, moi, j'y étais pas vraiment confronté. Je lisais des articles comme tout le monde. J'étais un peu confiné, mais j'y étais un peu moins confronté directement. Et je lui ai demandé comment je pouvais aider. Et puis c'est comme ça que le projet de plateforme web est né, avec un monitoring, avec un espace pour les articles, avec une carte qui est venue se greffer aussi par après. C'est une carte des états des services à Liège, à Bruxelles, à Namur, à Charleroi. Voilà.
Alors, on parle des sans-abri pour ces oubliés, mais justement, dans le monitoring, j'ai pu voir que ça ne comprenait pas uniquement que les sans-abri. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous développer un peu les différents... Qu'est-ce que ça intègre? C'est pas une définition, mais qu'est-ce que vous intégrez par ces oubliés? Quelle population, en plus peut-être des sans-abri, ou de manière transversale, on pense sans-abri, mais il y a aussi différents... Je dirais type, c'est un peu grossier, mais en tout cas, il y a différentes situations, en fait.
Ben, on a choisi différentes catégories et on est très conscient des limites de ces catégories. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir une lecture assez globale des situations, surtout qu'on traite, comme tu l'as dit, différentes situations, mais aussi différentes unités de temps, de lieu. Et puis, bon, si on va jusque dans le fond de la problématique, chaque situation est individuelle et personnelle. Et du coup, nous, on essaie de traiter ça de façon un peu plus macro. Et on a établi des catégories en sachant très bien que voilà, elles sont c'est la problématique même de catégoriser, c'est que forcément on range ça dans des catégories bien spécifiques et que bah, il y a des réalités qui se recoupent. Le but n'est pas non plus d'essentialiser des groupes, comme on le met sur notre site dans nos premiers articles, mais le minimum, c'est que ce sont toutes des personnes. Qui ont des conditions de vie qui finalement leur permettent ni réellement de se confiner, ou alors si elles se confinent, de pas le faire forcément à des distances de sécurité qui sont préconisées pour échapper à la transmission du Covid, ou alors qui ne peuvent pas forcément toujours appliquer des mesures d'hygiène nécessaires. C'est aussi le fait que ces différentes personnes n'ont pas ou peu été prises en compte, surtout au début, par les mesures du gouvernement qui ont adopté les arrêtés ministériels qui simplement me permettaient de faire le confinement tout au début, quoi. Donc il y a une absence de prise en compte des pouvoirs publics, quoi, pour le dire plus simplement.
Si je peux enchaîner, donc sur base de ces caractéristiques que Lucas a expliquées, on a au départ défini plusieurs catégories, donc des catégories assez évidentes en fait. Donc on peut parler des prisons, des centres fermés et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, où là on a des personnes qui vivent dans des dortoirs, dans des proximités excessives, dans des lieux qui sont souvent surpeuplés et donc avec parfois très peu de matériel d'hygiène. Et donc on a eu pas mal de révélations dans la presse sur les conditions totalement indignes, que ce soit en prison ou en centre fermé, et les conditions difficiles en centre d'accueil. Et puis il y a la question des étrangers en séjour précaire et des sans-abri qui eux n'ont carrément probablement pas de logement. Et en fait, après avoir établi ces catégories-là, qu'on estimait avoir été oubliées par le gouvernement, on s'est rendu compte qu'il y avait une catégorie même un peu extraordinaire, enfin, les oubliés des oubliés, c'est-à-dire on n'y a pas pensé de prime abord, mais ce sont aussi des personnes qui sont dans une vulnérabilité extrême face au virus, avec une impossibilité spatiale, matérielle et vitale de se confiner, comme par exemple les personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, les travailleurs et les travailleuses du sexe, et on s'est rendu compte aussi que c'était nécessaire de parler d'eux. Et en fait, c'est difficile de délimiter parce qu'un nombre croissant de catégories s'estime de personnes s'estiment être oubliées. Et donc si on tape coronavirus oublié dans Google, on va avoir une liste incroyable avec les éducateurs de rue, les travailleurs sociaux, bah, les caissiers, les caissières, qui estiment aussi qu'ils sont oubliés. Donc il y a énormément de personnes qui s'estiment lésées par les mesures du gouvernement et dans l'incapacité de se protéger face à la maladie. Et donc c'est vrai que c'est pas évident de cerner. On n'a pas du tout envie de faire une hiérarchie entre les personnes qui sont plus à risque et moins à risque, plus oubliées ou moins oubliées. Donc, ce n'est pas dans l'idée de faire une hiérarchie, mais de prendre en compte les personnes dont les inégalités sociales étaient déjà criantes dès le départ et qui se retrouvent encore plus vulnérabilisées face à ça. Donc, voilà. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de faire une balance.
C'est assez frappant en fait, on en a discuté avec Sybille pas plus tard qu'hier, de qu'est-ce que recouvrait exactement cette catégorie d'oubliés, puisqu'on voyait plein d'articles, de dossiers où, qui reprenaient le. Voilà, on n'a pas été très original sur le coup, mais qui reprenaient exactement cette catégorie d'oubliés pour parfois parler de choses qui étaient différentes des sujets qu'on traitait. Donc évidemment, l'objectif n'est pas forcément de dire que les personnes sans abri ou les prisonniers ou des personnes qui sont en centre d'accueil ou toute autre personne a le monopole d'être oubliée. Je pense que le fait justement que le mot oublié apparaisse beaucoup est un symptôme, pour pas faire de mauvais jeu de mots, de recul des services publics et du rôle de l'État dans ces domaines. C'est pas un hasard, quoi. qu'en temps de crise, justement, on
Donc
parle
là,
de l'immobilier.
justement, donc ça fait un peu plus d'un mois que la plateforme est lancée. Lucas, tu évoquais notamment le fait que petit à petit, donc il y a des arrêtés qui ont été pris, des décisions qui ont été prises, peut-être pour prendre en compte ces oubliés. Il y a également peut-être des inspirations internationales. On sait qu'au Portugal, il y a une légalisation massive. Du moins temporaire des sans-papiers qui étaient sur le territoire portugais. Il y a eu en France la volonté, on va dire, j'aime pas trop ce mot, mais d'aérer les prisons durant cette période de confinement. Du coup, j'imagine que du coup, dans votre monitoring, vous évoquez peut-être ces exemples internationaux et vous reprenez aussi donc l'actualité, tout ce qui se passe, justement, toutes les décisions qui sont prises au niveau fédéral, au niveau régional aussi, j'imagine, peut-être au niveau local par moment autour de Liège. Est-ce que vous voyez une évolution, on va dire plus ou moins positive? Est-ce qu'il y a une prise en compte relative de ces oubliés petit à petit? Est-ce que justement il y a une pression des associations et peut-être de certains politiques pour mettre en évidence cela?
Vas-y, Sybille, je t'en prie.
Donc ça dépend des secteurs et des niveaux de pouvoir, puisque tous les secteurs ne dépendent pas nécessairement des mêmes niveaux de pouvoir, ou en tout cas le gouvernement fédéral a une attitude très de subsidiarité en disant par exemple par rapport à la thématique des sans-abri, c'est d'abord aux communes et aux régions de s'occuper de cette problématique, nous on intervient, enfin c'est pas notre compétence première. Et puis par rapport au secteur, disons que au départ, le gouvernement fédéral a juste pas pensé à ces gens-là. Ils s'en sont pas occupés, ils ont un peu mis la tête dans le sable. Et évidemment, il n'y a pas eu 2 jours d'affilée sans communiquer, sans carte blanche, sans cri d'association. Et forcément, ça appelle à certaines réactions, ne fût-ce que d'un point de vue électoral, ça deviendrait vraiment compliqué d'ignorer une telle partie de la société civile. Donc il y a eu des petits aménagements qui ont été faits. Pour faire brièvement un tableau dans certaines des matières desquelles je m'occupe plus principalement. Mais au niveau des prisons, il y a eu une légère baisse du nombre de détenus, mais qui n'est vraiment pas significative. On a encore plusieurs personnes qui sont dans les mêmes cellules, qui sont tout à fait exiguës. Et il y a eu des petits aménagements, mais trop petits et assez injustes. Donc il y a une prolongation des congés pénitentiaires. Donc les personnes qui sont déjà hors de la prison peuvent rester plus longtemps hors de la prison pendant leur congé pénitentiaire. Mais par contre, il y a une suppression de toutes les permissions de sortie. Il n'y a pas de suspension de peine. Même pour des libérations avec des bracelets électroniques, c'était compliqué parce qu'il y avait une pénurie. Et donc ça va totalement à l'encontre de toutes les recommandations, de toutes les organisations et de toutes les associations, qui est de privilégier massivement les alternatives à la détention, quelles qu'elles soient, de faire des amnisties, des suspensions, des permissions de sortie, peu importe, mais de vider un maximum les lieux. Donc ça, c'est pas fait du tout, et les conditions d'hygiène sont préoccupantes, il n'y a pas assez de savon, de gel, voilà. Au niveau des centres fermés, il y a eu plus ou moins. C'est-à-dire qu'ils ont été vidés à 50% de leur capacité très rapidement. Et puis, il y a eu plusieurs libérations après, notamment par le pouvoir judiciaire, donc suite au recours introduit par les détenus. Je crois que maintenant, on a plus ou moins à 30% de la capacité des centres fermés. Mais ça reste une aberration, puisque, en fait, la seule justification d'être en centre fermé, c'est qu'on puisse être expulsé à brève échéance. Or, il n'y a plus aucun. Il n'y a plus aucune expulsion qui est possible, ou alors de manière très très rare et marginale. Mais c'est la plupart des personnes sont totalement inexpulsables à l'heure actuelle. Donc en fait, ce n'est pas du tout légal de les garder en centre fermé. Donc voilà, bah, la lutte continue à ce niveau-là. Puis au niveau des centres d'accueil de faits d'asile, en fait, il y a eu des crises qui ont été créées par les précédents gouvernements. Donc c'est des crises créées de toutes pièces. En fait, on sait bien que le nombre de demandeurs d'asile est fluctuant. Et en fait, on s'arrange pour chaque fois que les centres d'accueil soient à la limite maximale de leur capacité. Et donc, le gouvernement ferme tous les centres d'accueil pour essayer de concentrer les personnes dans les centres existants et fermer un maximum de centres. Et ça se passe depuis 2 gouvernements. Et donc, dès qu'il y a un tout petit peu plus de demandeurs d'asile que d'habitude, alors on crie à la crise, on dit qu'on ne sait pas les accueillir, on les laisse à la rue, on fait des quotas, etc. Donc bon, voilà. Et le problème, c'est que maintenant, bah, les centres sont occupés à 90% de leur capacité, sauf qu'on ne sait plus vraiment expulser les gens, on ne sait pas vraiment, c'est compliqué de les mettre à la rue aussi. Donc là, pour le moment, bah, c'est vraiment très, très, très très précaires et les gens donc vivent dans des dortoirs, peuvent pas vraiment sortir de leur chambre, peuvent plus prendre les repas dans les cantines, peuvent même pas faire à manger. Et là, par exemple, on vient d'avoir une alerte sur un centre à Moucron. C'est une information qui est pas encore sortie, mais où il y a des graves problèmes au niveau de l'alimentation des personnes qui reçoivent plus assez de nourriture et pas en qualité suffisante, genre 2 morceaux de pain et 1 boîte de sardines, et donc qui ont des carences alimentaires et qui les affaiblissent de manière grave. Alors, fait d'asile, fait des démarches pour ouvrir des campings, etc., mais fait aussi des démarches un peu moins nobles, ou par exemple, qui consistent par exemple à proposer des chèques repas de 70 € pour que les personnes quittent volontairement les centres, ce qui est quand même très grave, en fait. Donc, voilà, c'est cette pratique qu'on a apprise et qui est très choquante. Ça, c'est pour les... tout ça, c'est dans le secteur formel de l'accueil ou de l'hébergement qui est organisé par l'État, que ce soit prison, centre fermé et centre d'accueil. Maintenant, pour tout ce qui est le secteur informel, c'est peut-être mieux de laisser la parole à Lucas, pour tout ce qui concerne le secteur des sans-abri et des étrangers en séjour précaire qui se retrouvent sans-abri.
C'est difficile de faire un panorama global en peu de temps comme ça. Ce qu'on remarque dans le secteur des sans-abri, par exemple, c'est que la réactivité a surtout été celle des services de première ligne, du secteur associatif et des pouvoirs locaux des communes en première ligne. Donc il y a eu différentes mesures qui ont été prises et en fonction du lieu, c'est pas forcément la même réactivité qui a été présente. Voilà, il y a eu des communes bruxelloises qui ont très tôt réagi en mettant à disposition des hôtels avec les CPS locaux, avec des associations aussi, pour que ces hôtels en fait puissent simplement accueillir les gens la nuit. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'un mois, il faisait assez froid la nuit en plus. Voilà, c'était des mesures qui permettaient en fait de respecter la distanciation sociale là où les abris de nuit, par exemple, ne pouvaient pas le faire. Si on prend l'exemple de Liège, la réponse de la ville a été assez critiquée dans un premier temps parce qu'elle n'était pas assez forte et surtout insuffisante. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une centralisation en fait des services, mais qui se faisait au parc Astrid, parce que simplement des tentes pouvaient être mises là-bas et qu'on pouvait avoir une distanciation sociale suffisante. Les sanitaires ont tardé, c'était pas toujours dans de bons états, c'était pas lavé suffisamment souvent. Il y a aussi toute une partie des personnes sans-abri qui ne voulaient pas aller là-bas parce qu'elles avaient simplement peur d'être contaminées. Puis il y a d'autres sans-abri qui sont pas forcément amenés à se déplacer là-bas, qui restent dans le centre-ville, etc. Donc, voilà, je pense que la situation est un peu mieux pour le moment, mais je ne suis pas une personne de terrain, donc je ne peux pas forcément donner une actualité en temps réel là-dessus. Maintenant, toute une série de services qui s'en occupent et qu'on renseigne sur le site sous l'onglet La Carte, on peut voir la carte des services, mais il y a aussi toute une série de liens en bas qui mettent l'état des services au jour le jour, ou presque en tout cas. Donc là, ça peut être quelque chose d'intéressant à consulter. Il y a eu, pour tout ce qui est lutte contre la pauvreté, et notamment la situation en ce qui concerne les banques alimentaires et les CPS, il y a quand même eu, au niveau fédéral, une task force qui a été créée pour les groupes vulnérables. Maintenant, personnellement, je n'ai pas vraiment suivi son actualité. Je sais qu'elle avait pour but, en gros, d'évaluer l'impact sur les personnes vulnérables de l'épidémie, mais elle s'est mise en place que seulement vers le début avril, vers le 8-10 avril, je crois, donc c'est assez tard. Et finalement, il y a très peu de mesures concrètes qui ont été prises, puisque l'objectif était surtout d'identifier des personnes qui ne sont pas couvertes, de proposer des mesures socio-économiques supplémentaires, d'encourager la coordination des entités fédérées, mais on ne voit pas vraiment en quoi. Donc c'est toute une série d'analyses, on va dire techniques, mais qui répondent pas forcément aux besoins des associations de terrain, alors que finalement cette task force a été créée à la base grâce à une demande de personnes de terrain, notamment je crois le réseau de lutte contre la pauvreté, etc. Il y a un groupe de consultation qui a été créée par ailleurs et qui là rassemble des personnes de la société civile, je crois. Donc voilà, je crois que ces deux groupes voilà, créent de la connaissance, etc. là-dessus, mais personnellement, je n'ai pas suivi vraiment leurs travaux de près. Je sais pas si Sybille, tu as plus d'informations à ce niveau-là. Peut-être que là, je te lance la patate chaude, mais.
Justement, j'ai pas du tout d'informations à ce niveau-là, mais c'est ça aussi qui est interpellant parce qu'on est quand même fort alerte par rapport à tout ce qui se dit, ce qui se produit comme norme, comme activité. Mais je te rejoins tout à fait, Lucas. C'est absolument effarant qu'on ait un confinement qui soit décidé le 19 mars avec des mesures qui sont déjà annoncées le 13 mars et que c'est seulement le 8 avril qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour les plus vulnérables? C'est assez. Enfin, voilà, je crois que c'est pour sauver les apparences, mais le mal est fait. Et alors, il y a peut-être encore quelques personnes dont on n'a pas parlé, mais pour moi, c'est assez important parce que on a parlé du secteur des sans-abri, mais il y a des parcours de vie très différents qui peuvent mener à la rue. Et ici, on a aussi des activités qui sont dans le secteur informel, dans le secteur économique informel, comme les personnes qui sont sans papier, qui n'ont pas la possibilité de travailler, qui n'ont pas légalement le droit de travailler, et donc qui n'ont pas non plus de droit à des allocations. Donc le seul moyen de survivre, c'est de travailler de manière illégale. Toutes ces personnes-là sont privées pour le moment de travail, puisque tout est à l'arrêt, mais aussi de revenus de remplacement. Et donc littéralement, ces personnes crèvent de faim, et donc elles ont organisé ce lundi, une manifestation dans la Tour des Finances pour expliquer leurs conditions de vie et à quel point elles se sentaient elles aussi totalement oubliées. Donc la Tour des Finances, c'est là où se trouvent les bureaux de la ministre de la Santé et de la Migration. Et dans une situation qui est un peu similaire, mais c'est vraiment le risque, c'est pas. Oui, il y a la question du confinement, de porter un masque, de garder la distanciation sociale et d'avoir du savon, mais avant toute chose, il faut savoir manger. Sans manger, tout le reste ne sert à rien. En fait, c'est le besoin primaire de base qui n'est pas couvert. Et il y a aussi toutes les travailleuses et travailleurs du sexe qui soit travaillent dans des conditions qui sont extrêmement précaires et dangereuses, soit qui simplement sont à l'arrêt au niveau de leurs activités, donc n'ont plus aucune source de revenus ni de revenus de remplacement. Et donc, c'est vrai que ces personnes-là sont pas forcément dans le secteur des sans-papiers, comme Lucas l'a dit, au niveau de l'aide alimentaire, il y a des graves problèmes qui sont enregistrés. Donc c'est des situations aussi qui restent sous notre vigilance. Quant à savoir si la task force des personnes vulnérables va prendre en compte ces situations, ça on est un petit peu encore dans le doute, hein. On aura peut-être déconfiné avant que cette task force produise la moindre chose utile, ça peut-être, on ne sait pas.
Ouais, et c'est là qu'on se rend compte en fait de la finalement de l'importance des associations de première ligne et même tout un secteur de la société civile qui font finalement de l'aide complètement ce qu'on appelle de l'aide informelle, mais j'aime pas spécialement ce qualificatif. Et voilà, il y a des groupes Facebook qui sont organisés, notamment sur Bruxelles. Il y a de la distribution de nourriture qui se fait et qui n'est pas forcément toujours autorisée. D'ailleurs, ça pose la question entre l'aide sociale autorisée et celle qui ne l'est pas, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que des gens prennent de la distribution de nourriture en main qu'ils ne respectent pas forcément les mesures sanitaires. Ou en tout cas, c'est pas forcément donné que ce soit le cas. Et donc, ça pose cette question de ce qui est autorisé ou non. Mais il y a toute une série de choses même qui ne sont pas répertoriées et qui n'ont pas vocation à l'être par notre site et par notre carte, et qui sont des mesures de solidarité, qui peuvent être des mesures entre personnes du même quartier, entre voisins, entre toutes petites associations qui travaillent avec les personnes qu'elles connaissent, c'est-à-dire peut-être 5, 10, 20 personnes maximum, et qui n'ont pas forcément l'objectif d'être publicisées et d'être visibles, parce que justement elles fonctionnent mieux quand elles ne le sont pas.
Et je voulais revenir justement là sur tout ce que vous présentez, tout ce que vous avez évoqué. C'est assez impressionnant parce que si je comprends bien, pour le moment sur la construction de la plateforme, vous êtes deux. Et en fin de compte, la plateforme est assez hybride. Elle prend un éventail assez impressionnant puisqu'à la fois vous recensez un peu les décisions ministérielles qui sont prises aux différents échelons de décision politique. Vous recensez également donc une grande partie des actions associatives qui sont mises en place. Vous faites également une réflexion un peu plus poussée. Vous écrivez des articles sur on va dire presque quoi, un travail de réflexion qui est d'un peu plus long terme, avec vraiment des articles qui sont assez conséquents, où vous invitez à la fois les lecteurs et tous ceux concernés par ce confinement qui ont envie d'agir, vous posez des bases. Enfin, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses sur cette plateforme qui sont très diverses. Comment vous faites déjà pour tenir et comment et toutes ces informations-là, j'imagine que quand même vous êtes en lien avec différentes peut-être structures ou est-ce que vous avez un apport extérieur qui vous permet justement petit à petit de centraliser les informations ou est-ce que vous êtes en vase clos et qu'en fait vous dormez plus? Ok, ça me va.
Moi, je dors très bien, je te rassure.
Ok, ça
et, non, non, le rythme de travail, pour moi en tout cas, je crois que ce n'est pas le cas pour Sybille du tout, mais pour moi, a un peu baissé pour le moment. Donc, ça me laisse un tout petit peu plus de temps pour travailler sur le site. Et puis, on n'est pas seul en fait. Nous, on a lancé le site et ça a été quand même un gros boulot au début pour mettre tout en forme et donner on va dire, la première comment ouais là je veux dire la première forme principale notamment au monitoring, c'est-à-dire essayer d'avoir quand même quelques entrées pour ne pas avoir deux colonnes ennemies et ne pas avoir assez d'informations. Donc il y a eu un gros travail de recherche à ce moment-là. Puis évidemment qu'il y a un travail qui est conséquent de rassembler des informations, mais on travaille aussi avec d'autres personnes. Je ne sais pas si on peut forcément les citer, si elles veulent être citées ou quoi. Je regarde Sybille pour voir ce qu'elle en pense. Mais il y a d'autres personnes en fait qui travaillent sur chaque catégorie et qui nous donnent des informations, qui les mettent en forme et puis nous on les met en page par après quoi. Mais disons que le gros du travail est, à part sur une ou deux catégories, est fait par d'autres personnes que nous aussi. On reçoit une aide assez importante. Puis il y a pas mal de personnes qui nous envoient des infos sur le mail aussi. Des associations notamment.
Oui, donc ça c'est vraiment assez chouette parce que quand l'initiative a été lancée, il y a plein d'associations qui ont emboîté le pas, donc déjà qui nous ont confirmé que c'était une démarche qui leur était utile et significative, ou en tout cas qui leur tenait à cœur et qui étaient plutôt contents que ça se fasse. Et donc c'était déjà un soulagement de ne pas faire quelque chose qui ne sert à rien ou qui n'a pas de pertinence, surtout vis-à-vis des acteurs de terrain. Et donc eux nous ont envoyé plein d'informations et ça c'est vraiment chouette. Et puis après, c'est vrai que l'équipe se complète. Bon, c'est évidemment, si on veut parcourir toutes les informations une fois par jour, c'est un travail qui demande 3 heures à peu près. Voilà, travailler 3 heures tous les jours, mais c'est vrai que c'est mieux si on est plusieurs à le faire. Et ça, c'est sans compter les articles, peut-être, enfin, voilà, de la remise en forme. Donc oui, c'est quand même un travail important. Je suis pas sûre qu'on avait vraiment calculé ça en se lançant, mais c'est vrai que le fait qu'on y a pas mal de personnes en fait qui ont envie d'aider et qui justement y trouvent un peu un certain sens parce que c'est difficile d'aider autrement ou sur le terrain et donc au moins bah, on peut faire quelque chose avec cette plateforme.
Ça répond du coup un peu effectivement à la question que j'avais sur leur relation avec les associations. Elle a l'air d'être plutôt positive, en tout cas les acteurs de terrain. Je gratte un petit peu, je me disais, enfin presque en voyant certains articles que vous publiez, est-ce qu'il y a un lien avec les politiques? Est-ce qu'il y a une réception politique? Parce que peut-être vous avez presque un rôle de lobby à jouer pour peut-être faire pression politique du moins locale. Est-ce que vous avez eu des retours, des liens, des contacts avec des acteurs politiques, des acteurs publics, soit au niveau local ou à plus grande échelle?
Certains députés, oui, c'est vrai, qui sont intéressés par ces problématiques-là, ou les personnes plus vulnérables qui ont suivi l'initiative ou qui ont renvoyé des informations. Mais bon, globalement, Sophie Wilmès ou Maggie Debloc, je pense pas qu'ils vont consulter vraiment. Mais par contre, allez, on a essayé de faire passer le message quand même au ministre de la Justice de manière un peu subtile, puisque dans les actions en justice, que ce soit pour les prisonniers en prison, pour les détenus en centre fermé. Donc évidemment, on essaie de bétonner des dossiers pour demander leur libération. Et ça m'est arrivé, en tout cas dans plusieurs requêtes, où on a fait des modèles de requêtes qu'on s'est partagés entre les avocats, de directement référencer le site et de prendre un copier-coller de la partie monitoring qui concerne le lieu de détention. Et donc, c'est officiel, l'avocat du ministère de la Justice a désormais connaissance de cette plateforme et de tout ce qu'on y répertorie par rapport à la gestion de la crise dans les prisons. Donc voilà, mais je crois que c'est assez indirect. Ceci dit, ça a permis quand même de libérer quelques personnes, donc c'est pas perdu. Mais à part ça, voilà, on n'a pas vraiment de relais politique, à moins que Lucas en ait eu.
Pas spécifiquement au-delà de ceux que tu as pu avoir. Peut-être certains conseillers communaux liégeois sur plutôt alors à ce moment-là c'était plutôt pour les informer que ça existait et pour par moment avoir certaines demandes d'information des conseillers CPS aussi mais c'était surtout peut-être au début pour faire connaître l'existence du site et finalement non je dirais que les contacts qu'on a le plus sont avec les associations de terrain, quoi.
Et du coup, alors l'interview va bientôt se terminer. Merci en tout cas à vous. J'avais une dernière question, un peu, je la balance un peu comme une pierre à l'eau, mais c'était juste voir vous peut-être une espérance. Donc là, le site internet, il parle des oubliés pendant le confinement. Là, on va commencer une nouvelle étape du déconfinement à partir du 3 mai, après à voir ce qu'elle sera. Est-ce que vous avez une espérance, une suite à cette plateforme, une perspective? Je sais que c'est difficile d'en avoir actuellement, mais est-ce qu'il y a un horizon que vous espérez, que vous voyez? Je parle vraiment plus d'espérance que peut-être de sensations, mais vraiment, qu'est-ce que vous aimeriez voir à la suite de cette plateforme et de vos actions, qu'est-ce que vous aimeriez voir se profiler par la suite? Elle est dure cette question, oh putain.
dans un premier temps, en tout cas, elle aura une utilité dans un, je vais dire, court à moyen terme, puisque le déconfinement sera long. Et que le déconfinement va présenter toute une série d'autres problématiques qui vont se présenter, et je pense mettre en avant d'autres types de nouvelles inégalités, si tu veux. Voilà, tout le monde ne sera pas déconfiné de la même façon, il y aura des mesures qui vont être prises spécifiquement. On a commencé d'ailleurs dans le monitoring à parler des solutions de déconfinement qui étaient envisagées à certains endroits, en tout cas de relayer certains, je pense... certains travaux de spécialistes sur le déconfinement pour au moins signaler que ça existait. Et il y a à chaque fois dans ces travaux des passages bien précis sur les situations dont on parle, et donc on y fait référence. Pour le plus long terme, on en a discuté, je pense, avec Sybille il n'y a pas longtemps aussi, et je pense que ce sera probablement, comme toujours, assez intéressant d'un point de vue historique. Moi je pense que par ailleurs ça pour des travaux historiques ou des travaux à motif peut-être plus politique, ce sera assez utile de pouvoir retracer le cheminement des informations comme ça. Je crois par contre que ma chère collègue pourra répondre peut-être plus spécifiquement par rapport à son travail et à d'autres utilités auxquelles j'ai pas forcément pensé.
En tout cas, par rapport à mon travail, c'est surtout maintenant que c'est vraiment très utile de suivre au jour le jour ce qui se passe pour être toujours à la page dans les réclamations judiciaires. Donc je confirme tout ce que Lucas a dit par rapport à l'archivage historique, mais à l'éventuelle mise en branle d'une responsabilité politique par la suite, quelle que soit la méthode de demande de reddition de compte. Mais si j'ai la possibilité de me bercer de 12 illusions, j'aimerais imaginer que ça puisse aussi servir de moteur de conscience, parce que le public qui est visé par ce blog est généralement fort invisibilisé. Et en fait, la population, dans le cadre du confinement, se rend compte que s'il y a confinement, c'est parce qu'il n'y avait pas de politique publique en matière de santé qui était suffisamment réfléchie et pensée. Et donc, il y a une espèce de brèche qui peut éventuellement se créer où la population prend en considération le fait que les autorités publiques ne remplissent pas leur rôle et leurs fonctions et laissent à l'abandon toute une série de personnes. Et ici, finalement, ce sont tous les citoyens face à la maladie. On n'a plus qu'à supprimer les libertés publiques pour les protéger un minimum. Et j'ai l'impression que ça éveille quand même la conscience par rapport au fait que les gouvernants ne font pas leur travail. Et notamment, je pense qu'il y a plus de personnes qui ont conscience des problématiques au quotidien des sans-abri, des travailleuses du sexe ou des personnes en centre fermé, en se disant « mais c'est incroyable, vraiment ». Enfin, pour voir dans mon secteur, avec des personnes qui ne sont pas toujours très conscientisées des inégalités sociales ou qui sont pas, qui n'ont pas forcément le nez dans des matières où on rencontre plus de personnes précaires, mais qui se rendent bien compte qu'il y a une faillite dans la gestion de cette crise par rapport aux personnes plus vulnérables. Et je me dis que peut-être ça permet une certaine prise de conscience de l'incapacité de ces personnes à diriger une société juste. Donc voilà, mais ça c'est vraiment uniquement si on peut se bercer un peu d'illusions.
Lucas avait quelque chose à dire pour terminer.
Ouais, finalement, c'est une réflexion que personnellement j'ai eu, je n'ai pas eu au début de la création du blog et qui arrive un petit peu depuis quelques temps et à la lumière de ce que vient de dire Sybille. Je dirais même que ça met finalement en réflexion la capacité des dirigeants à diriger. Et donc, l'existence même des dirigeants. En fait, ce que montre le blog aussi, c'est qu'il y a une grande capacité d'auto-organisation, même si ce n'est pas formulé tel quel. Moi, je pense, je ne dis pas que l'autogestion est la solution dans absolument tous les cas, et que ça peut marcher en toutes circonstances, etc. Mais je crois que dans des situations bien précises, des situations de crise qui demandent une grande résilience, encore une fois, ce n'est pas le mot vraiment que j'ai envie d'utiliser, parce qu'il est fort dévoyé, et on va encore l'utiliser à toutes les sauces, surtout à la sortie du confinement, mais je crois vraiment qu'il y a une capacité d'auto-organisation qui est beaucoup plus à même à prendre en compte certains cas. Et puis, par ailleurs, le blog, à mon avis, peut servir aussi sur des situations qui sont dramatiques, mais pas seulement en temps de confinement et en temps du déconfinement qui va suivre. Je veux dire, la situation de surpopulation dans les prisons, le simple fait qu'il existe des centres fermés, voilà, ça c'est des choses, évidemment, sur lesquelles beaucoup d'associations et de militants sont présents, mais c'est, à mon avis, des points de vue qu'on partage et qui mériteraient d'être mis en avant par la suite dans le blog.
Merci à vous deux, en tout cas, c'était une belle conclusion, et en tout cas, je crois qu'avec l'émission, on partage vos espérances, et en tout cas, on vous soutient. Bon courage, en tout cas, dans la suite, dans la suite de votre travail qui... Comme vous le dites, c'est donc il y a plein de gens qui mettent, je crois, la main à la pâte pendant ce confinement pour essayer de faire une action. C'est aussi, vous essayez de faire votre part aussi, et je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et de partager votre action sur notre émission. Merci Sybille, merci Lucas. Bon courage à vous, bonne fin de confinement, enfin si on peut parler comme ça, ou bon courage pour ce début de déconfinement. Ne perdez pas la tête, courage, ça va aller. Et puis j'espère peut-être vous croiser en vrai à nouveau, peut-être bientôt, on croise les doigts. Merci beaucoup. On termine dans la troisième partie, on fait juste une petite pause musicale. Cette fois-ci, c'est ETG pour In Time Jazz, c'est des copains de Strasbourg. Oui, je le dis souvent que je suis alsacien, mais j'aime bien le dire et j'aime bien ce qu'ils font. Donc on les écoute tout de suite, c'est ETG Joker. Retour dans l'erreur est urbaine sur 48FM, c'était Joker de ETG In Time Jazz sur leur premier EP sorti en 2010, In Time Jazz tout simplement, vous pouvez les retrouver. C'est un groupe de jazz groove originaire de Strasbourg, comme moi, donc je les mets en avant et ça me fait plaisir, j'espère que ça vous a fait plaisir. Une dernière partie qui est pas très organisée, c'est un peu notre hors d'œuvre. On parle de tout et de rien et j'avoue que là on va surtout parler de rien. J'étais seul quasiment pour préparer cette émission, veuillez m'excuser, je n'ai pas eu beaucoup de temps malgré le confinement, malgré le fait que je sois actuellement au chômage technique, mais je n'ai pas trop développé encore cette troisième partie d'émission. C'était notamment pour souligner l'actualité et puis pour souligner ce qui a été dit par notre chère première ministre hier, tout juste, Sophie Wilmès, qui nous a annoncé donc les débuts du déconfinement. Et j'avais envie de souligner, pour faire un peu un lien justement avec ce dont on avait parlé avec Jojo la semaine dernière, on avait parlé de mobilité et d'urbanisme tactique. Et justement, j'ai trouvé un article du Monde qui en parle, et je crois que Sophie Wilmès en a parlé un petit peu. Alors, l'annonce à 22h15, en tout cas publiée par Le Soir. Pour éviter qu'il y ait trop de monde dans les transports en commun, nous conseillons aux personnes de se déplacer par leurs propres moyens de transport. À pied, en voiture, bon certes, mais ça, on le met de côté, et à vélo, pour laisser les transports en commun aux personnes qui en ont le plus besoin. Alors ça rejoint justement l'article qui a été publié par Urbagora, notre partenaire, je ne l'ai pas encore dit, qui est le partenaire de l'émission. Mais c'est également souligné un article très intéressant qui a été fait, qui a été publié dernièrement, qui parle de cet urbanisme tactique, le fait de mettre en place de manière urgente des aménagements intéressants, justement pour s'adapter au confinement et aux problématiques qu'elle découle, et notamment celle du transport en commun. Le fait que les transports en commun à la fois vont être limités au niveau de leur fréquence, mais également au niveau de leur capacité d'accueil. Et pour cela, on avait notamment parlé d'exemples en Amérique, mais également en Europe qui sont en train de se développer. Donc, cette idée de pouvoir mettre en avant, de pouvoir faire des aménagements d'urgence pour les cyclistes. Et c'est notamment ce qui est défendu dans l'article que vous pouvez trouver sur urbagora.be. L'article s'appelle « Pourquoi et comment il va falloir rendre Liège cyclable en un été ?» Je vous laisse le lire, en tout cas c'est très intéressant. Et puis ben, c'est pas les seuls qui commencent à publier justement sur ce sujet-là. Il y a notamment Le Monde, une tribune publiée par Mathieu Poumarède, qui est professeur de droit à l'université de Toulouse Capitale. Mobilité, double point, l'urbanisme tactique, il en parle également, favorise le revivre ensemble. Tracé de pistes cyclables, temporaires et sécurisées, suppression de places de stationnement, telles sont quelques-unes des solutions rapides et peu onéreuses, ça c'est un point également important, qui s'offrent aux villes pour s'adapter aux contraintes du déconfinement. Il cite notamment des exemples qui sont mis en place en Amérique et en Europe, et certaines villes déjà en France se sont engagées, Nantes, Lyon, Paris, en attendant peut-être les villes belges, et en attendant Liège, en tout cas pas encore de réponse, puisque l'article d'Urbagora a été envoyé directement à notre cher bourgmestre Willy de Meyer par le GRAC, l'association de défense des cyclistes et des praticiens du cyclisme. Donc on attend de voir, en tout cas c'était important de le souligner, et nous aussi on a envie de rabâcher le sujet et de relancer le sujet, il nous paraît important en tant qu'émission sur l'urbanisme, en temps de crise, actuellement en déconfinement, en tout cas bientôt, mais toujours avec cette difficulté pour les transports publics, il faut développer le vélo cet été, il est urgent, et en tout cas il y a des stratégies tactiques très rapides qui sont mises en place et peu onéreuses, en tout cas affaire à suivre. Comme je l'ai dit en tout cas en début d'émission, on va continuer sur un rythme, du coup du moins on va espérer un rythme hebdomadaire On va essayer de tenir le rythme au mieux avec nos chroniqueurs qui viendront. On multiplie les chroniqueurs et puis on fait un appel également si des chroniqueurs en herbe, des gens s'ennuient, sont au chômage technique également, ou simplement ont du temps et de la passion à partager avec nous. N'hésitez pas à nous contacter. Cette émission est proposée par Urbagora sur 48FM. N'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook L'erreur est urbaine ou via Urbagora. Vous êtes libre, en tout cas, d'alimenter avec nous. C'est une émission libre, libre de ton, libre sur ces sujets. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Déjà, je vais essayer de préparer l'émission au mieux avec les chroniqueurs. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et on se quitte en musique. Et en musique locale. Cette fois-ci, c'est les Liégeois de Fungus Chip. Bernard le renard, on vous laisse en musique. Profitez bien. Bisous et bon week-end. Ciao, ciao.
just like my love.